Espace 2. Tout de suite, Babel avec Carole Pirker.
Peut-on devenir chrétien sans renier l'islam? C'est l'étonnante aventure spirituelle que nous vous racontons ce matin. Musulmane et disciple du Christ, c'est ainsi que se définit une convertie pas comme les autres. Vous êtes dans Babel, bienvenue à vous. Christine Mocostabella, c'est vous qui avez rencontré cette convertie d'un nouveau style.
Oui, elle s'appelle Shaina Marie Barret et c'est une femme haute en couleur qui n'aime pas qu'on l'enferme dans une case. Et d'ailleurs, elle semble prédestinée à ce qu'on ne puisse pas lui coller une seule étiquette.
C'est-à-dire ?
Eh bien, Shaina est française, mais elle est née à Madagascar, mais d'une famille d'origine indienne, mais chiite.
C'est déjà un sacré mélange en effet, et donc à cela, elle ajoute aujourd'hui une conversion au christianisme.
Oui, alors même si elle préfère se définir comme christienne plutôt christienne. Que chrétienne, oui, c'est-à-dire amoureuse du Christ plutôt que appartenant à une nouvelle religion.
Une sorte de syncrétisme islamo-chrétien ?
Eh bien, en tout cas, Shaina Marie Barret s'en défend. Pour elle, elle ne fait pas sa petite sauce religieuse, mais c'est vrai qu'elle refuse de renier le berceau culturel qui lui a donné sa foi en Dieu. C'est ce qu'elle raconte dans un livre paru l'an dernier et qui s'appelle justement « Musulmane, disciple du Christ ».
Les tout premiers souvenirs, c'est les psalmodies des sourates du Coran. C'était habituel chez ma maman et sans arrêt, elle nous rappelait de toujours tout commencer par le nom de Dieu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça scandait notre vie et notre journée en fait. En commençant chaque chose, chaque acte par au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux.
Alors, votre papa était un mollah, c'est-à-dire un érudit chiite. Hein, vous étiez d'une famille chiite. Est-ce qu'on parlait de Jésus déjà à la maison, dans votre islam ?
Alors en fait, on parlait de Jésus parce que quand on rencontrait des chrétiens, papa nous expliquait que Jésus pour nous était un prophète et qu'il n'était en aucun cas fils de Dieu. D'autre part, Jésus a une grande place dans l'islam parce que, en tout cas dans l'islam chiite, parce qu'il reviendra à la fin des temps. D'ailleurs, dans le Coran, il y a un des versets d'une sourate qui dit que il sera le médiateur pour nous, pour que Dieu soit miséricordieux avec chacun d'entre nous.
Alors, Shaina Marie Barret, vous racontez dans votre livre que votre père, par exemple, refusait de manger si sa femme et sa fille n'étaient pas avec lui quand il était en voyage. Il faisait preuve d'une grande liberté par rapport aux coutumes. D'où lui venait cette grande liberté ?
Maman me racontait que quand il s'est marié avec elle, elle avait à peine 15 ans. Il lui a fait retirer son voile en lui disant de ne mettre que son étole indienne, en fait. Il était effectivement il lisait beaucoup, il aimait beaucoup rencontrer des gens différents. On avait énormément de monde qui venait à la maison. Et en même temps, il était très exigeant. Il était même intransigeant sur certaines prescriptions.
Lesquelles, par exemple ?
Tout ce qui est au niveau de la nourriture, de l'alcool. Je sais qu'il a eu beaucoup de mal, par exemple, quand un de mes frères s'est marié avec une non-musulmane. Mais ce que j'ai toujours vu chez mon père, c'est cette capacité qu'il avait par amour de revenir vers les personnes, de revenir vers mon frère. Et en fait, il nous rappelait toujours la loi. Et il essayait, malgré tout, d'accepter ce que nous faisions comme chemin, même si c'était douloureux pour lui.
Et de votre côté, Shaina Marie Barret, vous n'étiez pas vraiment une petite fille très rangée.
Non, c'est vrai que j'étais la petite dernière. J'étais tout le temps en train de me poser beaucoup, beaucoup de questions. Et à l'adolescence, la question qui je suis, qui je veux être, comment je veux avancer ma vie, me taraudait. Et c'est vrai que j'ai plutôt été rebelle, assez provocatrice. Je sentais que je voulais pas aller vers cette route tracée d'épouser un Indien, d'avoir des enfants, en fait, de rester assignée à une place. En plus, je correspondais pas vraiment à tout ce qu'on attendait de moi, que ce soit à l'école, que ce soit en famille ou en communauté. Déjà, je n'étais pas dans les canons d'une jeune femme indienne. Par exemple, j'avais des cheveux bouclés. On m'obligeait à aller lycée toutes les semaines. Et du coup, par exemple, à 13 ans, j'ai choisi d'aller chez le coiffeur avec mon argent de poche. Et je me suis fait couper les cheveux pour les garder bouclés. À la fois, j'étais pas malheureuse. J'étais très aimée. J'étais la petite dernière, donc très gâtée et assez capricieuse d'ailleurs. Mais voilà, j'étais pas satisfaite de ce qui m'attendait, en fait.
Alors, vous étiez assez rebelle, mais ça ne vous a pas empêché de faire un pèlerinage à la Mecque, à l'âge de 13 ans. Et là, vous avez vécu quelque chose de très fort spirituellement. Qu'est-ce qui vous a touchée?
Alors, je n'ai jamais questionné l'existence de Dieu. Pour moi, c'était une évidence, ça faisait partie de ma vie. Mais le pèlerinage à la Mecque a été quelque chose d'initiatique. Quand ces milliers de personnes convergent vers la Kaaba, et que vraiment on appelle Dieu à l'aide, on lui dit qu'on vient vers lui, qu'il est notre horizon, il y a quelque chose de vraiment fort qui se passe, et la présence de Dieu est parfaitement palpable. Ce sentiment de ne jamais être abandonné vient de là.
Et puis, vous parlez pourtant d'une espèce de désir inassouvi qui vous habite. Est-ce qu'il naît à ce moment-là, ce désir?
Peut-être qu'au moment du pèlerinage à la Mecque et au retour, il y a quelque chose qui résiste en moi, qui est que si Dieu existe, je ne suis pas sur terre que pour préparer mon paradis, en fait. Je suis pas là que pour suivre des prescriptions. Alors même si l'islam n'est pas que ça, mais ça je le découvre en fait bien plus tard, je continuais à être en quête. Je voulais absolument découvrir Dieu et le voir. Et ça ne me quittait pas.
Alors Shaina Marie Barret, à 15 ans, vous arrivez à Paris, dans un internat catholique. Et vous fréquentez l'aumônerie. Qu'est-ce qui vous conduit à cet endroit-là, vous qui non seulement êtes musulmane, mais êtes fille de Mola?
Oui, alors, l'aumônerie, quand des jeunes sont venus le présenter au lycée, pour moi, c'était une porte de sortie. Quitter l'internat pour aller fumer, pour aller rencontrer des garçons, puisqu'on n'était qu'entre filles. Donc, c'était un peu uniquement ça.
D'accord, c'était pas d'abord quelque chose, un grand désir spirituel de catholicisme?
Absolument pas. Absolument pas.
Et pourtant, il s'est passé quelque chose de très fort pour vous, à Noël, 1979.
C'est ça.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors en fait, bon, je fréquentais donc l'aumônerie régulièrement et j'allais surtout pour les engagements, pour déjeuner avec d'autres jeunes, débattre, mais en aucun cas prier ni faire des partages d'évangiles ou de vie. Et quant à Noël, il y a eu une célébration. Je me suis dit, tiens, je vais bien aller voir ce qui s'y passe. J'aimerais bien voir comment ils prient. Et j'y suis allée un peu en retard. Je suis arrivée, c'était commencé. Et il y avait un climat de prière extrêmement fort. Et j'ai un ami qui chantait le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. Et je dois avouer qu'à ce moment-là, je me suis sentie saisie, mais littéralement saisie. Ce Verbe dont on proclamait qu'il était Dieu, ce Verbe se faisait chair en moi et il me prenait tout entière avec toute mon histoire. Et c'est vrai que j'ai eu très très peur et que je me suis enfuie parce que je ne voulais surtout pas ressentir ça. Et je me suis dit, une fois que j'ai retrouvé la raison, si on peut dire, que c'était juste de l'émotion et que voilà, c'est l'ambiance qui me portait à ça, mais que ce n'était pas vrai.
Et ça aurait pu en être resté là, en fait. Vous auriez pu penser, bon, c'était un moment d'émotion, passons à autre chose. Pourquoi ça n'est pas resté là?
Ça n'est pas resté là parce que le Christ ne m'a pas lâché. Quand on dit que c'est Dieu qui vient à notre rencontre, c'est pas forcément nous, que c'est lui qui vient converser avec nous. Il s'avère qu'il y a eu d'autres moments. J'allais plus du tout dans les temps de prière. J'allais à l'aumônerie toujours pour ses activités, mais rien de ce qui était de la foi. Et il s'avère que ces mêmes amis m'ont invité à une célébration de leur choix apostolique. Et il y a un couple qui fêtait en même temps leurs 10 ans de mariage. Et là, il y a eu une autre parole qui m'a profondément troublée. Cette parole de l'Évangile qui dit « Celui qui ne quitte pas son père, sa mère, n'est pas digne d'être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne d'être mon disciple. » Et là encore, c'était clairement à moi que ça s'adressait. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et clairement, j'ai dit non. La seule chose qui nous est demandée, en fait, c'est de dire oui. Et tant que je n'avais pas dit oui, le Christ ne m'a pas lâchée. Jusqu'à un moment où il y a eu une autre parole lors d'une rencontre, une lecture qui disait, je ne sais plus si c'est Jérémie ou Isaïe d'ailleurs, je crois que c'est Jérémie, « Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup et je t'aime. » Et cette fois-ci, j'ai été obligée de rendre les armes et de dire oui. Et mon oui, ça a été « Amin », comme on le dit en arabe. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, pour moi, ma peur, c'était de trahir ma famille, mes parents. Un gros conflit de loyauté. On ne se rend pas compte à quel point, quand on vit ce genre de choses, et ça m'a fait beaucoup travailler sur tous les enfants et les jeunes d'origine étrangère en France, quand ils font des études, quand ils essayent de s'intégrer. Ce conflit de loyauté est énorme quand on gère plusieurs cultures, plusieurs religions, et que on a peur, en fait, d'être morcelé dans son identité.
Alors, on reviendra un peu plus tard sur la manière dont vous articulez votre identité musulmane et votre identité chrétienne. Mais pour l'heure, donc, vous venez de vivre quelque chose de très fort. Vous êtes adolescente et vous allez en parler au prêtre de l'aumônerie qui n'est pas franchement enthousiaste.
Et non, je crois qu'il a pris... Il avait absolument conscience de ce que ça allait engager puisque j'étais fille de Moula et ça, il le savait. Et donc, quand je lui suis venue lui dire, sur le bout des lèvres d'ailleurs, ce que je vivais, il m'a dit « on n'est pas dans la merde ». Et effectivement, ça a été un long combat, parce que tout de suite, du fait d'être fille de Moula, j'ai été prise en charge par l'évêché de Paris.
Et dans un premier temps, l'archevêque de Paris, qui à l'époque donc est François Marty, vous dit, écoutez, vous avez déjà été baptisé dans l'esprit, restez-en là, continuez à vivre de ce baptême spirituel. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas simplement suivi, écouté?
Alors, il m'a dit ça parce que j'étais mineure et qu'il fallait attendre la majorité, en fait. Et donc, ce qu'il me proposait, c'est de vivre ma foi sans passer par le catéchuménat qui aurait été long et de continuer à être accompagnée par la communauté, en fait, les jeunes de l'aumônerie. Et celui qui était responsable des relations avec les musulmans à l'époque, Pierre Boz, il s'appelait. Donc, en fait, j'ai continué à faire partie d'une équipe MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes. J'ai continué à vivre ma vie de jeune à l'aumônerie, à m'engager, à apprendre à prier avec eux, à discuter, à débattre avec avec les uns et les autres. Et puis en paroisse aussi, je jouais de la guitare, donc j'animais des messes, je faisais des lectures. En fait, à part la communion, j'avais une vie de foi assez qui grandissait ainsi.
Et puis ensuite, vous avez été accompagné par le cardinal Lustiger, qui lui-même est un converti du judaïsme. Et ça s'est pas très très bien passé avec lui. Pourquoi ?
En fait, il ne comprenait pas le fait que je ne veuille pas rompre avec ma communauté, ma famille. Et ils avaient peur, je pense, et moi, j'étais pas capable, à l'époque, de l'exprimer comme je l'exprime aujourd'hui. Je pense qu'ils avaient peur du syncrétisme. Ils me trouvaient pas très clair, parce que je continuais à aller à la mosquée de temps en temps. Et effectivement, j'allais à la mosquée parce que j'avais besoin de ma communauté, j'avais besoin de retrouver ma famille. Il me disait, il y a quelque chose de pas clair, on peut pas t'accorder le baptême. Et la deuxième chose, c'est que je vivais déjà avec Meryl, donc qui est mon mari aujourd'hui. C'était le serpent qui se mordait la queue, c'est-à-dire que quel que soit le fil que j'essayais, la porte que j'essayais d'ouvrir, c'était pas possible. Et du coup, j'étais tellement furieuse que je lui ai claqué la porte au nez et je lui ai dit, dans ces cas-là, je ne serai jamais baptisée. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je veux aller dans une communauté qui, de toute façon, ne m'accueille pas et ne m'accepte pas, alors que j'ai une communauté où tout va bien ?
Donc, quand vous dites que l'autre problème que vous viviez avec Meryl, c'est-à-dire qu'on aurait voulu que vous soyez déjà mariée avec l'homme avec qui vous viviez, c'est ça ?
C'est ça, c'est-à-dire que je vivais dans le péché, en fait.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à persévérer ?
Alors, en fait, je le dis pas dans le livre, mais je suis repartie un an à l'île de la Réunion, donc après le bac. J'ai travaillé dans une institution pour malentendants et je me suis dit, je reprends ma vie là où je l'avais laissée. Le problème, c'est que le Christ, lui, ne me lâchait pas, quoi. Je sentais bien que c'est lui que je voulais suivre, malgré les 11 000 kilomètres que j'avais mis. Et le problème, c'est que pour suivre le Christ, j'avais besoin de l'Église. Donc, ce baptême était nécessaire pour que je puisse avancer, en fait.
Et vos parents, ils savaient rien pendant tout ce temps-là ?
Alors non, j'ai jamais pu leur dire. Et c'est vrai que là aussi, on m'a traité de lâche. En fait, je n'ai pas eu le courage pour plusieurs raisons. D'abord, j'étais morte de trouille. J'étais morte de trouille, non pas d'avoir un problème ou une fatwa ou quoi que ce soit, mais j'étais morte de trouille d'être rejetée, reniée. Je voulais pas les perdre. Et puis, ma mère, quand un de mes frères, par exemple, qui est, je sais pas s'il est devenu athée ou agnostique, mais il ne pratiquait plus, et ma mère disait, mais c'est moi qui vais aller en enfer. Je vais aller en enfer parce que je n'ai pas su l'élever sur la bonne voie, comme le dit la première sourate. Et quand j'entendais ça, je me disais, mais je vais pas lui faire porter ma conversion en plus. Donc, je l'ai caché. Et puis, en même temps, dans ma famille, alors, mes neveux et nièces le savaient, je leur en parlais, mais ils savaient que je travaillais pour l'enseignement catholique. Ils savaient que j'étais très proche des chrétiens. Donc, je ne sais pas s'ils ont fait semblant de ne pas comprendre ou si le fait de garder le silence, ça nous a permis d'avancer. Mais vous voyez, par exemple, mon fils qui avait 2 ans sur son pot quand j'allais en vacances chez ma mère, il chantait « Alléluia, tue-tête ». Donc, on faisait comme si on n'entendait pas. Donc, voilà. Je crois que ça a été un peu un statu quo qui nous permettait de continuer à avancer.
Dans ma tête, c'était clair. Mon attachement au Christ est le point de départ de tout. Le christianisme n'est pas venu en moi prendre le relais de quelque chose d'insuffisant ou d'inconsistant. Ce n'est pas un mieux, un plus que j'y ai trouvé. Le Christ a donné visage à ce Dieu reçu.
Alors, expliquez-nous un tout petit peu, Chaïna Marie Barret, comment est-ce que ça s'articule ? Vous avez rencontré le Christ, mais ce n'est pas vraiment un plus. Comment est-ce qu'il a donné visage à ce premier Dieu que vous avez découvert dans l'islam ?
Alors, pour moi, c'est l'unique, le seul Dieu. Le Christ a donné visage à ce Dieu reçu. Le Christ est venu me donner cette proximité que je ne percevais pas avec ce Dieu qui est pour nous l'au-delà de tout quand on est musulman. Et ce Dieu proche, ce Dieu incarné, ce Dieu qui prend nos routes humaines, c'est ce Dieu-là. C'est-à-dire que ce Verbe qui existe depuis la création, il était déjà présent dans mon histoire dès ma naissance, dès le ventre de ma mère en fait. Comment expliquer ? Moi je dis souvent que ma communauté, ma famille a été Jean-Baptiste. En fait, tout ce que j'ai reçu dans la foi, la manière dont on m'a fait expérimenter Dieu, la manière dont on m'a appris à prier, ça a préparé mon cœur au fait que le Christ est venu s'incarner en moi. La place était prête, en fait. Le fait d'être habitué à me mettre sous le regard de Dieu, quand on dit se soumettre, c'est bien se mettre sous le regard de Dieu. Tout cela a été préparé, en fait.
Après, il y a des points de rupture. Vous l'avez dit en introduction, pour l'islam, Jésus est un prophète, certes un grand prophète, mais ce n'est pas Dieu, il n'est pas vraiment mort sur la croix. Comment est-ce que vous arrivez à concilier cela avec votre adhésion au Christ des chrétiens ?
J'ai effectivement eu un moment, je me suis posé la question, il n'y a pas si longtemps que cela, il y a à peine 10 ans, je me suis dit à un moment, mais c'est sûr, est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu mort et ressuscité, ou est-ce que je fais un espèce de syncrétisme, je prends un peu de ce qui m'intéresse dans l'évangile, mais je veux rester. Surtout que je rencontrais des théologiens musulmans extraordinaires, de plus en plus intéressants, qui me donnaient du sens à ce que j'avais appris dans mon enfance. Et j'ai eu besoin de vérifier si pour moi Jésus-Christ était vraiment ce Fils de Dieu, ou bien simplement à un moment de mon histoire, j'ai eu besoin de lui à l'adolescence pour une philosophie de vie en fait. Et je suis allée au Centre Sèvres faire un premier cycle en théologie. Et c'est vrai que là, par la théologie, par l'étude de la théologie fondamentale, exégétique aussi, j'ai vraiment compris que oui, je peux dire aujourd'hui que Jésus est Fils de Dieu pour moi.
Donc juste pour les auditeurs, le Centre Sèvres qui est un centre d'études jésuites à Paris.
C'est ça.
Oui. Et en quoi vous diriez que vous êtes encore musulmane aujourd'hui ?
Je dirais que, je ne sais pas si je peux dire que je suis musulmane aujourd'hui, je dirais que ce sont mes racines, je dirais que c'est mon socle. L'islam est ma première alliance, comme nous pouvons converser avec l'Ancien Testament, moi je converse avec ce que j'ai reçu de l'islam, avec des sourates du Coran parfois, mais je ne dirais pas que je suis musulmane, c'est la suite de mon histoire. Et la musulmane que j'ai été, je ne la renie pas, je ne la rejette pas. Je peux pas couper ce que j'ai été, je peux pas le retirer de moi. Comment dire ? C'est la même chose par rapport à la culture. Et je crois que c'est ce qu'on ne comprend pas peut-être aujourd'hui en Occident, ou en tout cas en France. C'est qu'on peut avoir plusieurs cultures, on peut être né dans une religion et pour autant avoir différentes facettes, différentes appartenances et se sentir pour autant très unifié dans sa vie. Et moi, je me sens par exemple, pleinement française. Et pourtant, j'aime parler indien, je mange avec les doigts autour d'un plateau, je suis capable de danser le rock, je suis capable d'aller à la mosquée pour un décès, je suis capable de... Voilà, tout cela, c'est moi et je ne peux pas m'amputer, en fait.
On sent une grande continuité dans votre histoire. Souvent, quand on entend de jeunes convertis en provenance de l'islam, parfois ils affirment très fort une nouvelle identité, quitte à se montrer très critique envers leurs origines. Comment est-ce que vous comprenez cette autre attitude ?
Alors, il y a des personnes qui ont peut-être vécu des choses difficiles. Moi, je peux l'entendre. Mon histoire, elle est singulière. Je ne prétends pas qu'elle soit la vérité. Pour autant, je voulais aussi dire que l'islam n'était pas que ce qu'on pouvait en percevoir par les médias, par l'islam radical. Il y a une vraie spiritualité et aujourd'hui, on a des théologiens qui essayent de la dire, des théologiens français, des mystiques comme Abdennour Bidar, il y a Homero Pereira qui a fait ma postface, on a Rachid Benzine aujourd'hui qui travaille beaucoup ça, et puis on a même des chrétiens qui travaillent les textes musulmans et la religion musulmane. Et c'est vrai que moi j'avais besoin de dire que l'islam avait aussi un chemin à proposer, et pour moi s'il y a un seul Dieu unique, il y a un seul sommet, il y a différents chemins qui y conduisent. Et le Christ m'a confirmé par ce qu'il nous a révélé, que le salut était offert à tous et que l'Esprit travaillait dans tous les cœurs, qu'il y avait plusieurs bergeries dans la maison du Père et que ce qui était important, c'était comment chacun cherchait cette vérité. Et je ne prétends pas avoir la vérité ou... En tout cas, je continue à la chercher avec d'autres.
D'ailleurs, vous racontez, Chaïna Marie Barret, que la figure de Christian de Chergé vous a beaucoup aidé, donc ce moine de Tibérine qui lui-même aimait beaucoup l'islam.
C'est ça. Moi, Christian de Chergé a été celui qui a permis d'unifier ma vie. C'est celui grâce à qui j'ai pu arrêter de demander pardon sur la tombe de mes parents. Parce que Christian de Chergé m'a fait vraiment prendre conscience par tout ce qu'il a développé comme théologie de l'espérance, où il dit que l'islam fait partie du dessein du Père. Il m'a vraiment unifié, il m'a permis de ne plus être écartelé, même si je ressens que je suis quand même toujours à côté. Quelque part, il y a un écart en moi qui ne sera certainement jamais comblé, mais je le vis assez sereinement grâce à Christian de Chergé. Il a découvert sa vocation grâce à un musulman. Il a appris à dialoguer avec les musulmans. Il a fait de la lectio divina sur des sourates du Coran. Et moi, il m'a permis vraiment de comprendre que je n'avais pas besoin de renier, de rejeter, que je pouvais continuer mon chemin en gardant tout ce que j'étais, en le redonnant au Père, par qui tout m'a été donné.
Alors finalement, l'Église a autorisé votre baptême. Comment ça s'est passé ?
Alors en fait, je ne sais pas si l'institution l'a autorisé. Il s'avère que j'ai demandé à plusieurs, dans plusieurs paroisses, à être baptisée et ça a été refusé jusqu'au jour où je suis allée frapper à la porte de Saint-Méry. Et Saint-Méry était une église un peu, dissidente, ou peut-être une église qui était là, une paroisse pour les gens du seuil, les gens qui ne se retrouvaient peut-être pas dans la bonne case. Et le curé a tout à fait accepté que je sois baptisée, puis qu'on soit mariés le même jour. Et d'ailleurs, le jour de mon baptême, non seulement j'étais habillée en sari, parce que je ne me voyais pas en robe de mariée, donc le sari qui est un vêtement indien, Et j'ai dit la première sourate du Coran en arabe. Mon mari, Meryl l'a dit en français. J'ai été baptisée à l'entrée de l'église et puis nous sommes allés à l'hôtel pour nous donner le sacrement du mariage.
C'est original comme cérémonie.
C'est-à-dire que quand on dit cette sourate, alors c'est vrai que si on l'interprète comme ne nous laisse pas dans la voie des égarés, je le dis pas exactement, mais évidemment que ça veut dire ne nous laisse pas dans la voie des égarés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Quand je la dis, et je la dis surtout sur la tombe de mes parents, quand je la dis, je dis garde-moi dans ta voie, laisse-moi faire ta volonté, et je la dis dans ce sens-là, c'est-à-dire que je me l'approprie. Quand je dis le matin, aujourd'hui je ne dis plus Bismillahirrahmanirrahim, je dis qu'il me soit fait selon ta volonté tout au long de la journée. En fait, si je disais Bismillahirrahmanirrahim, cela ne me gêne absolument pas d'appeler ce Père miséricordieux. Voilà, cela n'est pas trahir ma foi en Jésus-Christ que de le faire. Et ça, c'est grâce à Christian de Chergé et aux moines de Tibérine. Et quand je lis Charles de Foucault aujourd'hui, voilà, ce sont des gens qui me disent « il y a quelque chose de mystérieux qui dépasse toutes nos manières d'enfermer Dieu, en fait ». Dieu ne peut pas être enfermé. Et ça, c'est dans l'islam aussi que je l'ai appris, puisqu'on le nomme par 99 noms, qu'on ne peut jamais en faire le tour, qu'on n'en fait pas d'image. Et je pense que cela m'a beaucoup aidé à ne pas enfermer Dieu dans ce que moi je voulais qu'il soit.
Peut-être pour terminer, Shaina Marie Barret, pourquoi est-ce que vous avez eu le besoin d'écrire ce livre maintenant, à ce moment de votre vie ?
En fait, j'ai eu besoin de relire un peu cette histoire, en essayant aussi de le relire théologiquement, parce que les récits de conversion sont plutôt ceux où on renie sa première histoire pour aller vers la vérité. Mais il y en a d'autres qui ont vécu la même chose que moi. Avant moi, il y a Raymond Panikkar, qui est un théologien prêtre hindou, qui a jamais renié sa part d'hindouisme. Il y a Claire Lee, qui est bouddhiste et qui a déjà travaillé cette histoire et cette culture en la gardant et en l'articulant avec sa découverte du Christ. Et je voulais aussi dire que ce trait d'union, c'était justement ce pont, qu'on arrête de construire des murs les uns contre les autres. Et l'actualité me le fait dire encore de façon encore plus terrible. Qu'on arrête de s'entretuer au nom de chacun un Dieu auquel on croirait et qui ne serait pas le même, l'unique. Voilà. Et d'un autre côté, ce désir vraiment de montrer et d'expliquer ce dialogue en moi qui continue en fait.
Et est-ce que vous avez eu des retours, notamment je pense peut-être à certains membres de votre famille qui ont pu lire ce livre ?
Pour l'instant, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que des musulmans catéchumènes m'écrivent en me disant « Grâce à vous, on comprend. Je comprends ce que je vis et les difficultés que j'ai pu avoir ou les peurs que j'ai. » Ma famille est en train, je crois, de découvrir mon livre parce que, a priori, j'ai une nièce qui a dit à mes frères et sœurs que j'avais écrit un livre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais cet été à la Réunion. Est-ce qu'ils vont m'en parler ? Est-ce qu'ils vont le lire ? Quand on googlise mon nom, on voit bien. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de caché. Donc, peut-être que le moment est venu où on va en parler. On va voir ce qui va se passer. Par contre, j'ai des retours quelquefois cinglants de catholiques qui me disent que je blasphème ou que je suis dans l'erreur. Pour l'instant, j'ai pas eu de fatwa contre moi venant
catholique.
Côté musulman, c'est plus côté catholique que je... Les catholiques traditionnalistes m'ont dit que j'étais vraiment dans l'erreur totale.
Dans l'erreur totale ou pionnière d'un nouveau dialogue entre les religions, on vous laisse trancher, c'était Shaina Marie Barré à votre micro, Christine Mocostabella. Vous nous rappelez peut-être le titre de son livre ?
Oui, c'est « Musulmane, disciple du Christ » et c'est publié aux éditions Fidélité.
Christine, merci pour cet entretien et pour toute réécoute de ce sujet. Rendez-vous sur le play RTS à l'enseigne de Babel. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à babel@rts.ch. Merci à Sophia Muller pour la réalisation et à Daniel Zacker, notre attaché de production. Elsaline Uviller et la Symphonie Fantastique, c'est tout de suite. Quant à nous, rendez-vous dimanche prochain. Même lieu, même heure. Belle suite d'écoute sur RTS Espace 2.
Accompagne de l'aube à la nuit. Elle vous porte, elle vous élève. Elle réveille ce qu'il y a de plus beau en vous. RTS Espace 2, l'inspiration. RTS Espace 2 s'écoute en DAB+, et sur rts.ch/audio.
RTS Culture, la culture avec des grands C.
Vous écoutez Espace 2. La matinée se poursuit en musique.